Il est midi 22 minutes. Eh bien, le problème des routes récurrent, si on veut, de la qualité de nos routes refait surface avec une série d'articles publiés depuis cette fin de semaine, depuis samedi, dans le Journal de Montréal. Et le CAA Québec a décidé de faire le palmarès des pires routes au Québec. On sait là qu'il y a des nids de poules partout sur l'île de Montréal, ça c'est à peu près sûr. Mais il y a aussi de la chaussée de nos routes qui est extrêmement mal entretenue. Souvent, il y a des couches d'usure qui sont soulevées. Donc, tu entres là-dedans à pleine vitesse sur l'autoroute. C'est le cas à Sainte-Julie sur l'autoroute 20 en direction de Montréal. C'est épouvantable dans ce secteur-là. Je l'ai noté à plusieurs reprises. Bref, on va essayer de voir où sont les pires routes du Québec avec Annie Gauthier, qui est porte-parole du CAA Québec. Bonjour, Mme Gauthier.
Bonjour.
Alors, vous avez répertorié les pires routes du Québec. Quel est votre palmarès, votre triste bilan?
Alors, oui, grâce aux participants, aux citoyens du Québec, on a défini un top 10 des pires routes du Québec. Ouais. Alors, la Palme d'Or revient au boulevard Gouin-Est à Montréal.
Ah oui, hein?
Oui, et je fais une parenthèse, il y a 9 régions administratives qui sont représentées dans le top 10. Ensuite, vous avez les Laurentides avec la montée du Bois-Franc. Le chemin Craig à Lévis, qui est un petit nouveau cette année de notre palmarès, qui est suivi en 4e position par la rue Newton à Boucherville. 5e position, boulevard du Grand Héron à Saint-Jérôme, qui donne pas sa place. La route 389 sur la Côte-Nord, qui est sous la juridiction du ministère des Transports. Traverse de Laval, Lac-Beauport, un habitué du palmarès, malheureusement pour lui. Chemin Cadieux à l'Ange-Gardien en Outaouais, chemin Saint-Henri à Mascouche en 9e position. Et on termine avec une route au Saguenay, première entrée du Saguenay au palmarès des pires routes en 5 ans, avec le rang Saint-Martin.
Bon, ça va pour le palmarès, puis on le constate, puis je suis convaincu que tout à l'heure, il y a des gens qui vont nous appeler pour nous signaler d'autres routes qui sont en mauvais état aussi, là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le mauvais état de nos routes? Ça date de quand, là, que les routes ont commencé à se dégrader?
Bon, c'est plusieurs choses mises en commun. Alors, évidemment, pendant plusieurs années, on n'a pas priorisé nos routes. On les a laissées aller. On n'en a pas pris soin comme il fallait, puis on s'est réveillé un beau matin où il y a un viaduc qui s'est effondré en tuant quelques personnes. Et là, on s'est décidé qu'il fallait revoir nos infrastructures routières. Alors, il y a cette problématique-là. Oui, le climat est un facteur aggravant. Il ne faut pas lui mettre tout sur les épaules, mais ça n'aide pas.
Non, mais sauf que le mauvais climat, il y en a pas juste au Québec, là. Il y en a en Ontario aussi, il y en a aux États-Unis. Puis on se rend compte, quand on traverse les frontières, les routes, soudainement, sont meilleures l'autre bord de la frontière.
Effectivement, vous avez entièrement raison, mais c'est effectivement un facteur aggravant. Puis la troisième raison, celle qu'on entend beaucoup, puis c'est les experts qui le disent, ce n'est pas moi, c'est les matériaux, puis le fondement de la route. Comment on les construit, puis qu'est-ce qu'on utilise en considération d'un sol mou, qui est le sol du sud du Québec, souvent, beaucoup, là où il y a la majeure densité de population. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que nos routes ont été construites il y a quoi, 50, 40 ans, alors qu'il n'y avait pas autant d'achalandage, qu'il n'y avait pas autant de charges lourdes sur les routes. Et donc là, on se ramasse avec un réseau vieillissant qui n'est plus du tout adapté à nos besoins de 2019 et donc qui finit par briser parce qu'on n'arrive pas à tout réparer et à rattraper le temps perdu.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une raison politique? On se souvient qu'au début des années 90, sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, on avait transféré une série de routes qui étaient des routes gérées par la province, par le Québec, et on avait transféré ça aux municipalités à l'époque. Bon, on leur avait dit, on va vous donner de l'argent, vous allez être capable de les entretenir, et finalement, il semble que l'argent n'a pas suivi, les budgets n'ont pas suivi le transfert des routes, en fait.
Effectivement, on parle de la fameuse réforme Ryan qui a fait très mal au réseau routier d'une certaine façon, parce que oui, on a confié l'entretien de nombreux kilomètres de route à des villes qui n'avaient pas les budgets à la base pour s'en occuper. Puis en confiant ces responsabilités-là, ben on n'a pas fait suivre le budget, puis ça a été comme ça pendant plusieurs années, là, plus de 20 ans. Vous demanderez à la Fédération québécoise des municipalités, ils en ont gros sur le cœur là, à cet égard-là. Ouais. L'année passée, alors que les libéraux étaient encore en place, on voulu donner un peu plus de puissance financière en rajoutant 250 millions sur 5 ans. Bon, c'est sûr qu'on faut être reconnaissant de ça, mais est-ce suffisant compte tenu du fait qu'on a perdu beaucoup de temps? Je ne pense pas. Fait qu'il va falloir repenser nos façons de faire, nos façons d'investir, puis nos façons de prioriser, là.
Madame Gauthier, merci d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir. Bonne journée.
Au revoir, Annie Gauthier, et porte-parole de CAA Québec. On va maintenant parler à Pierre Tremblay, qui est ingénieur. Il est directeur général adjoint de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, pourquoi au juste les routes sont-elles si mal entretenues? On parle, entre autres, d'un problème structurel, là, vraiment dans la conception des routes et qui est bien en dessous de l'asphalte, finalement.
Oui, effectivement, il y a différentes routes, on vient de l'entendre. Là, au niveau géotechnique, il y a des sols qui sont plus sensibles que d'autres. On pense à l'argile, le gravier, la roche. Donc, nos routes sont bâties sur différents types de matériaux. Donc, c'est clair qu'il y a des interventions au niveau de la conception qui doivent être adaptées à ces différents types de sols-là. Donc, une mauvaise conception dans un mauvais sol, ben, va donner évidemment un résultat où la route qui devait ou qui doit durer 50 ans va durer inévitablement moindre dans la mesure où on ne fait pas l'intervention nécessaire au bon endroit au bon moment.
Oui, mais c'est pas depuis l'année passée qu'on construit des routes au Québec. On n'a pas appris justement de nos erreurs, puis on a continué pendant des décennies à construire des routes alors qu'on savait que la structure n'était pas bonne, n'était pas efficace?
Non, notre avis à nous est simple, c'est qu'on vient aussi de le mentionner, il y a eu un déficit d'entretien 1980-90 particulièrement. Donc, il faut savoir que les routes ont été bâties dans sa majorité des cas dans les années 60-70 et dans le cycle de vie d'une route, il y a nécessairement des interventions à faire pour s'assurer que cette route-là va bel et bien durer 50 ans. Donc, si on manque dans le cycle de vie une intervention qui doit être majeure, qui est prévue et on ne le fait pas, c'est clair qu'on vient de perdre en une gueule de la durée de vie puis évidemment de la qualité de la structure de chaussée. Je vous donne un exemple. Une fissure qui n'est pas scellée va faire pénétrer de l'eau. Et l'eau, évidemment, avec le gel des gels, on le comprend, va, endommager la fondation de la chaussée. Donc, si on ne fait pas d'intervention plus poussée que simplement faire une couche de surface dans ce type de chaussée-là, c'est clair qu'on va juste faire du palliatif. On va juste s'assurer que la surface est bonne, mais on n'ira pas en profondeur au niveau de la chaussée.
Mais pourquoi on ne fait pas davantage de routes en béton, en ciment, là? Il y en a quelques-unes là sur certaines autoroutes à Montréal, à Québec, un peu partout autour des grands centres, mais on fait des tronçons de route, puis c'est jamais les autoroutes au complet. Et pourtant, cette structure-là a l'air plus solide, il me semble.
Le ministère des Transports, parce que c'est là qu'on retrouve le plus souvent ce type de chaussée-là, on fait sa niche déjà. Donc, dans les axes où c'est fortement sollicité, les charges lourdes, entre autres, c'est ces routes-là qui sont à refaire, parce qu'évidemment, quand on arrive à la durée de vie d'un tronçon donné, le choix du béton a été, passez-moi l'expression, mais identifié de façon claire dans la programmation du ministère. Donc, c'est pour ça que quand on refait une chaussée, exemple sur la 20, on va la refaire en béton parce que le choix a été déterminé dû à la circulation. Mais le choix du béton est très correct pour les chaussées fortement sollicitées. Quand c'est moins sollicité ou il y a moins de trafic, l'enrobé bitumineux est encore le meilleur choix de par, vous direz, la manière de faire les choses et la conception, et évidemment conséquent du trafic qui sont associés à ce type de chaussée-là.
Mais c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher, j'imagine, les construire en béton.
Effectivement, le béton coûte plus cher à la construction, a aussi son cycle de vie au même titre que l'asphalte, avec des interventions qui doivent aussi être faites dans le béton, comme ça doit être fait aussi en enrobé bitumineux. Donc oui, à l'achat, c'est plus cher, mais à la durée de vie, dans les fortes charges, c'est mieux choisi. Par contre, il faut faire les interventions quand même. Fait que si on pense qu'on fait une route en béton puis qu'on la laisse faire pendant 50 ans, elle va se détériorer au même rythme que les autres types de routes vont se détériorer aussi. De là, l'importance de faire les bonnes interventions d'entretien au bon moment.
La route 175, là, dans la réserve faunique des Laurentides, il y a quelques années, ils avaient expérimenté une nouvelle façon là, de faire de faire la route et le bitume, entre autres choses, où on l'avait comme étalé presque d'un coup là, avec une asphalte qui était beaucoup plus chaude et qui permettait de faire des, disait-on, en tout cas, là, où je pense que c'est plutôt ce qu'on espérait, de l'asphalte qui dure plus longtemps. Est-ce que vous savez si ça a fonctionné, cette nouvelle méthode-là?
Il y a effectivement des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, puis il y a aussi de nouvelles techniques là, de recyclage en place et de thermorégénération, je vais le dire comme ça, qui sont effectivement utilisées. Et effectivement, ces techniques-là ont aussi je dirais, leur bien posé au bon endroit, vont avoir des résultats très intéressants. Oui, il y a des techniques de chaussée avec des matériaux supérieurs. On pense au nouveau bitume, parce qu'on est dans les nouveaux HRD et les bitumes modifiés, pensez-moi, je m'excuse. Donc, ces nouveaux bitumes-là vont effectivement améliorer le matériau si ça vient de rentrer en vigueur cette année. Mais effectivement, ces matériaux-là sont testés et essayés à gauche et à droite, je vais le dire comme ça, pour s'assurer qu'on a les bons matériaux aux bons endroits. C'est effectivement ce qui est arrivé sur la 175.
Bon, juste terminer avec ça. Madame Gauthier nous en parlait tout à l'heure. Quand on change de province, là, puis on arrive en Ontario, soudainement, la route est plus belle. Puis quand on traverse la frontière avec, je sais pas, le Maine ou le Vermont, ben la route, encore une fois, vient aussi belle. Pourtant, ils ont les mêmes hivers que nous autres.
Oui. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que l'autre côté des frontières, on intervient au bon moment, au bon temps, avec les sommes nécessaires pour faire les bonnes interventions. C'est là toute la différence. Le Québec, l'Ontario et les États-Unis, tous fonctionnent grosso modo avec les mêmes exigences au niveau normatif, j'entends. Donc, c'est pas les matériaux, c'est pas la capacité des gens à concevoir ou à exécuter les travaux qui est en cause. Selon nous, c'est vraiment, on a peut-être trop tardé à faire des interventions sur nos réseaux à nous, ce qui fait qu'effectivement, ça paraît mieux ailleurs que chez nous. Ouais. Donc, c'est ça qui est la clé, est dans l'intervention au bon moment. C'est là qu'on va avoir nos gains. Et les montants nécessaires, c'est un petit aparté, en 2012-13, pour juste l'entretien des chaussées, était de l'ordre de 800-900 millions de dollars. 2015-2016, on a descendu ça à 500 millions.
Donc, c'est pas suffisant. Pas marché,
pour s'assurer que les montants sont là de façon récurrente et, je dirais, et efficace pour s'assurer qu'on fait les bonnes interventions.
M. Tremblay, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Et bonne route.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Pierre Tremblay est ingénieur. Il est directeur général adjoint de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec. Moi, je pense que c'est juste une question de moyens. On met pas suffisamment d'argent sur nos routes et on a le résultat qu'on mérite jusqu'à un certain point. On s'arrête et on vient tout de suite après. Restez là. Alors, vous avez vu peut-être le palmarès fait par le CA des pires routes du Québec. Alors, quelles sont vos pires routes à vous? Tiens, on aimerait vous entendre là-dessus. Il y en a plein dans la région de Montréal, bien sûr, mais vous avez peut-être vos favorites. Alors, 790-9850 ou encore 1-800-790-9850 ou encore par texto. Vous textez 98985. Et là, on va commencer avec Alain. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre pire route?
Oui, mais je vais aller à contre-courant.
Ah oui?
Ceux qui connaissent les Laurentides bien, là, dans le secteur là, de Saint-Faustin, là, la Carré, la Conley, là, il y a le chemin à Abercrombie, qui est le rang McGuire. Ça a été refait il y a 40 ans, ça.
Oui.
Et dans le secteur, là, il y a des carrières, donc il y a beaucoup de circulation de camions. Et je comprends pas, cette route-là, elle est quasiment parfaite. C'est parce qu'elle a été bien faite il y a 40 ans. On a mis un revêtement qui ressemble à ce qu'on appelle du grenat, là. C'est-à-dire qu'il y a un composé de pierre qui est assez substantiel et un bitume qui est hyper flexible et adhérent.
Ouais.
Donc, pourquoi ils ont été capables de faire une route-là qui dure 40 ans? Oui, elle est entretenue. Quand il y a des fissures, on voit que les fissures ont été remplies. Là. Je pense que c'est assez étonnant. S'il y a une place qui sont capables de le faire, dans le Nord en plus, parce que tout ce que j'ai entendu là, depuis que vous avez invité des gens, là, quant à moi, c'est des mensonges. J'ai été consultant pour le MTQ, et quand on parle du climat, là, ça a peu d'influence. Peu d'influence, pourquoi? Parce que si on construit une route de façon appropriée, le climat ne vient plus influencer. Vous l'avez mentionné, on s'en va en Ontario, on s'en va aux États-Unis, l'autre bord de la frontière. Puis ce sont belles, les routes, là.
Ouais.
Le MTQ avait une vidéo promotionnelle interne, il y a plusieurs années, qui disait, se vantait d'avoir construit ou, en fait, formulé un bitume spécialement adapté pour le Québec. Puis c'était extraordinaire, puis ça faisait là, à peu près n'importe quoi.
Ouais.
Sauf qu'il n'en pose pas. Il ne pose pas ce bitume-là.
Ouais, mais il y a peut-être une question de budget aussi, là, quand on voit les.
C'est pas tellement le budget, je vais vous dire comment ça fonctionne. C'est qu'on donne des contrats à des contracteurs avec la spécification de mettre cette recette-là. La recette coûte trop cher. Le contracteur met ce qu'il veut. Puis quand on fait les inspections par la suite, c'est bizarre, le bitume est conforme. C'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
Écoutez, c'est pas compliqué, là. Tout le monde a intérêt à ce que les routes, on les refasse aux 5 ans.
Ah, ça,
on
c'est
se
sûr.
Met de l'argent dans nos poches.
Merci, Alain. Merci, au revoir. On va parler à Pierre-Luc. Bonjour, Pierre-Luc.
Ouais, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Ben, en fait, votre dernier intervenant, il a un peu raison. Moi, je travaille dans une compagnie de bitume. Puis, ben, la raison pourquoi en Ontario puis aux États-Unis, ils ont du beau bitume, parce que eux autres, ils achètent de l'asphalte, ben, du bitume enrichi de polymère. Et, juste au Québec, tous les truckers, ils prennent du 58-28, là, dans le fond. L'asphalte est bonne jusqu'à plus 58, puis elle est plus bonne à partir de moins 28. Puis on s'entend qu'au Québec, l'hiver est moins 28.
Moins 28, ça arrive. 58, c'est plus rare, mais moins 28, ça se peut.
C'est ça, tu sais, en Ontario puis au Vermont, c'est tout le temps 58, moins 34. Puis je sais pas pourquoi au Québec, il n'y a personne qui check. Les ministères des Transports, ils ont été fermés ou je sais pas trop.
Mais vous, vous en installez du bitume, là. Vous travaillez pour une compagnie?
Non, nous autres, on est distributeurs de bitume. Dans le fond, il y a plusieurs compagnies, mettons Roxboro ou whatever, qui viennent chercher du bitume.
Ouais.
Puis ben, c'est ça. Les compagnies qui font du pavage au Québec, ben, ils achètent le plus cheap. Ben, c'est pour ça que ça pète.
Mais ça, c'est-tu parce que le ministère des Transports demande ce grade-là ou s'ils prennent ça parce que ça coûte moins cher? Puis de toute façon, les inspections sont faites un peu n'importe comment.
Moi, c'est pas les devis puis whatever. Moi, je sais juste que les trucks qui s'en vont livrer au Québec, ben ils prennent pas le bitume qui vaut cher. Là. Ils prennent le cheap puis faites bien fait. C'est le même qu'on marche ici.
Merci, Pierre-Luc.
Yes, sir.
Au revoir. François, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez à dire?
Ben écoutez, moi, il y a plusieurs points, là, mais le premier point, tantôt, vous parliez de route en béton.
Ouais.
Quand on prend, mettons, l'autoroute 15 Nord, pour aller dans les Laurentides, ils auraient fait un grand bout là en 2009, si je me rappelle bien, le béton coûte beaucoup, beaucoup plus cher que l'asphalte. Et puis, 4-5 ans plus tard, c'est déjà tout cassé à beaucoup d'endroits, à plusieurs endroits, ce qui est très dommage. Puis on est tous tannés un peu de ça, là, tu sais, c'est tout le temps brisé, on brise nos voitures là-dessus. Puis à voir avec les analyses qui ont été faites là, par les journaux dernièrement, ben je pense qu'il est temps pour le gouvernement là, de faire quelque chose, de mettre un comité spécial, de faire quelque chose pour c'est nous qui payons pour ça, là. Donc à un moment donné, ce serait le fun de se faire rassurer puis qu'on fasse peut-être un plan d'action là, pour qu'on améliore notre réseau routier. Là.
Seriez-vous prêt à payer plus cher d'impôts pour avoir des meilleures routes? Parce que ça revient toujours à ça, là, une question d'argent, là.
Non, absolument pas, mais je pense qu'on en met déjà suffisamment, mais peut-être que l'argent... Là, en plus, on est dans un contexte de surplus budgétaire à Québec depuis plusieurs années et pour les prochaines années. Il serait peut-être temps là, de faire quelque chose. Puis il n'y a pas seulement aussi la qualité des routes qui est importante, c'est aussi la signalisation. Ça, c'est capital. On roule sur des routes où il n'y a pas de ligne, nulle part. Le soir, des fois, on voit plus rien, où est-ce qu'on s'en va. Je pense pas que c'est très, très dispendieux là, de rajouter un peu de peinture à des endroits chaque année. Là. On est dû pour ça. Là.
Merci, François.
Merci.
Au revoir. On va terminer avec Patrick. Bonjour, Patrick.
Oui, salut.
Allez-y, vous écoute.
Oui, ben écoutez, moi, je suis camionneur, puis je dirais, là, la 30 entre Boucherville et Sorel, c'est vraiment ridicule. Puis même ce matin, je suis parti de chez nous, de Sorel. Puis à partir de Sorel, aller jusqu'à Saint-Roch sur Richelieu, ça avait été tout refait l'année passée. Puis ce matin, la 30 est encore fermée. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais toute la machinerie pour le pavage était là encore. Fait que je sais pas si ça avait été fait tout croche l'année passée, puis là, ils sont obligés de la refaire. Puis la rue Notre-Dame aussi, je te dirais là, qu'à Montréal, là, ça en est une pas pire.
Oui, exactement. La rue Notre-Dame, oui, effectivement, elle n'est pas en super bon état. Mais on en parlait il y a quelques semaines de ça, alors que je remplaçais dans l'émission du matin avec Paul Arcand, avec Marc Brière, qui est un spécialiste de la circulation. Souvent, ce qu'on fait, c'est que, et je pense que ça a été le cas sur la 30, vous me corrigerez, là, mais on met ce qu'ils appellent les couches d'usure. Là. Tu sais, ils enlèvent 2 pouces de scarification, ils font le béton par-dessus. Et l'année d'après, c'est tout le temps à refaire. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se pose la question à savoir si c'est efficace, cette méthode-là.
Ouais, ben écoute, moi, je peux te dire, parce que le secteur de Sorel, là, tu sais, justement, à Hurlus, fait que j'ai vu ce qu'ils ont fait. Le fond a vraiment tout été refait de A à Z. Toutes les traverses, là, les tuyaux là, pour le drainage, puis tout ça avait tout été changé. Ils ont refait le pavage. Écoute, ça s'est terminé à l'automne dernier. Fait que c'est pas parce qu'il n'y avait pas le temps là, de mettre l'asphalte là, vraiment là, sur le sens du monde, puis que ça soit bien fait le premier coup. Là, t'sais. Puis, mais comme certains de vos intervenants disaient tout à l'heure, c'est comme la rue Notre-Dame. Je me rappelle justement quand il était un matin à Paul Arcand où je ne sais pas si c'est un intervenant de la ville ou quoi, là, qui disait que bien souvent, l'asphalte qui avait été mis pour faire la rue Notre-Dame, c'était une couche, là, comme tu disais tantôt, là, comme comme Marc disait, là, c'est juste une couche pour améliorer, mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus fort, plus solide, et qui dure le plus longtemps. Parce que même le bout qu'ils ont fait l'année passée, là, où ce que les égouts et tout ça, là, t'arrives là-dedans, là, comme moi, je suis dans le transport de pétrolier, fait que j'ai pas le choix de passer là quand je vois ça arrive sud. Puis je vais vous dire là, que même avec un camion neuf, là, tu te ramasses avec des, excusez l'expression, mais des ratas, c'est pas trop long. Là,
ouais, exactement. Allez, merci, c'est Patrick. Vraiment rough. Merci beaucoup.
Fait plaisir.
Bonne route. Au revoir. Alors voilà, donc on va s'arrêter un tout petit moment. Il est midi presque 45 et tout de suite après, Luc Lavoie va être avec nous. On va parler entre autres de ces fameux dossiers d'immigration qui ont été passés à la trappe avec l'adoption de la loi 9 sur l'immigration. On y revient dans un instant, restez là.
98.5, circulation.
Merci Champlain, Victoria, Jacques-Cartier dans les deux directions. Ça va encore bien. La fontaine vers Montréal recommandable 25 ans après le tunnel à Anjou. Du volume Anjou pour le tunnel, mais on a terminé le remorquage voie du centre dans le tunnel, alors ça va mieux. En juin, obtenez jusqu'à 0% la location au financement sur tous les Infiniti 2019. Visitez infiniti.ca et découvrez le luxe qui se vit.
Vous pouvez compter sur Walmart pour les bas prix imbattables garantis. C'est pourquoi le filet de bœuf Angus triple A canadien à 100% est maintenant seulement 9,47 $ la livre chez Walmart.
Au groupe de un concessionnaire Vimont Toyota Laval, ça fait une couple de jaloux qui nous disent « Hey, moi aussi, j'ai juste un concessionnaire, pis ça marche pas comme vous. Comment vous faites pour vendre autant de véhicules? C'est quoi le truc? » Ben, pauvre vous! C'est parce que vous vendez pas de Toyota. C'est comme si vous essayiez de vendre du fromage en crotte qui fait pas squitch-squitch. C'est celui qui a été fait la veille, là. En tout cas, pendant les étiquettes rouges, nos Toyota, ils font squitch-squitch avec des offres comme le RAV4 2 RM 2019 à 30 304 $. Vimont Toyota Laval, c'est tout un groupe.
OK, groupe. Squitch-squitch!
Pour vos petits ou gros projets de peinture, Home Depot est là pour vous aider à économiser. Ici, vous trouverez de la peinture de qualité supérieure au prix d'entrepôt. Des bas prix tous les jours sur chaque contenant de peinture, teinture ou apprêt de haute qualité Behr. Et les membres Pro Extra peuvent obtenir une remise de 10 à 20% en récompense sur les achats admissibles de peinture Behr. Combien payez-vous vraiment par contenant? Home Depot, c'est beau. Achat minimum requis, détail en magasin.
Les vacances vont bien se passer. On n'aura pas de problème avec la voiture. On n'aura pas de problème avec la voiture. Non.
Si les vacances vous stressent, visitez le service certifié des concessionnaires Chevrolet Buick GMC Cadillac et profitez du forfait triple économie qui inclut un changement d'huile 100% synthétique et le bilan de santé de votre véhicule. Vous pourriez même gagner vos pneus d'hiver. Question de vous éviter d'autres stress. Détails sur monservicecertifié.ca.
Hey, l'autre jour, j'avais quelqu'un dans mon taxi puis elle me dit « Rogatien, je rêve d'un monde meilleur. »
Ben,
juste à rêver ta assurance. Parce qu'avec le programme Ma Conduite, tu pourrais sauver jusqu'à 25 % sur ton assurance auto. 25 % juste en chauffant sur la coche. Puis si tout le monde chaufferait sur la coche, le monde vivrait dans un monde meilleur.
Intact Assurance. Une assurance à faire rêver. Si vous rêviez l'assurance, demandez une soumission au intact.ca ou parlez-nous à un courtier. Certaines conditions et exclusions s'appliquent.
Jusqu'au 2 juillet, chez TELUS, apportez votre téléphone et obtenez 10 gigs de données plus 5 gigs en prime pendant 24 mois pour 75 $ seulement. Faites vite, des conditions s'appliquent.
Drainville PM. Commentaire.
J'ai apporté un amendement au projet de loi et les 3700 demandeurs de dossiers principaux qui avaient fait leur demande alors qu'ils étaient au Québec, on a dit qu'on allait les inviter et qu'on allait analyser leurs dossiers. Pour le reste des 18 000 dossiers, on n'avait pas de garantie qu'ils répondaient aux besoins du marché du travail québécois et c'est pour ça qu'on a décidé de passer vers le nouveau système.
Voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc, comment ça va?
Salut Louis, ça va bien toi?
Ben oui, très bien. Es-tu resté tard debout en fin de semaine pour écouter les baillons?
Non, parce que je pense que je connaissais le résultat d'avance.
Ah oui, exactement.
C'est comme essayer de regarder une partie de hockey en reprise quand t'as entendu les scores à la radio. Alors,
c'est ça, tout à fait.
Alors, je me suis dit non, sais-tu, je vais faire d'autres choses. Il faisait beau.
Mais on a appris des affaires intéressantes quand même, entre autres sur la loi 9 sur l'immigration. Ce ne sera pas finalement 18 000 dossiers qui vont être passés à la trappe comme on le prévoyait dans la loi. Il y en aura quoi, peut-être 5 000 ou près de 6 000 de moins finalement.
Ben, on dit qu'en bout de ligne, ce sera entre 12 et 13 000. Tu sais, parce que à cause de la décision de la Cour supérieure, ils en ont traité 2000 de plus. Il dit, on vient de l'entendre, le ministre, ouais. qu'il y a 3700 demandes présentées par des gens qui se trouvent déjà au Québec, elles vont être traitées. Alors, en bout de ligne, le dommage est un peu moins pire que prévu. Ça reste quand même assez triste comme situation. Néanmoins, moi, le concept d'arrimer l'immigration avec les besoins du marché du travail, j'ai rien contre. Quand même, je l'ai salué, même. J'ai pas compris pourquoi ils ont été ajoutés cette histoire de détruire 18 000 dossiers qui, en bout de ligne, sont moins pires, sont 12-13 000. Ça reste quand même 12-13 000 de trop. Mais, tu sais, la presse a entrepris ce matin une série sur la pénurie de main-d'œuvre dans ouais. diverses régions. Ce matin, ils parlent de Drummondville. Là, c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas. Ils font du maraudage d'un restaurant à l'autre pour essayer d'en cacher du staff,
ben oui.
d'aller voler aux autres. Enfin, il va falloir que son système ARIMA, et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important à l'heure actuelle, ce système ARIMA qui est supposé être une plateforme informatique sur laquelle tu t'en vas t'inscrire, puis immédiatement, il va y avoir une espèce de mariage qui va se faire avec les besoins des employeurs, à savoir, est-ce que j'ai besoin d'un soudeur, est-ce que j'ai besoin d'un pâtissier, est-ce que j'ai besoin d'un opérateur de machinerie lourde, est-ce que j'ai besoin de ceci, est-ce que j'ai besoin de cela. L'affaire qu'il y a, c'est que le système, il marche pas encore.
Ben c'est ça, il a été mis en service par les libéraux, ça, faut ouais. bien le mentionner.
En août 2018.
Ouais. Exactement, et la raison pour laquelle on l'a presque pas utilisé, c'est parce qu'il fonctionnait pas.
Il fonctionne toujours pas. On n'est pas capable de faire le mariage entre les demandeurs puis les offres qui sont là. Et ça, je sais pas... tu sais, l'expression consacrée, le bordel informatique à Québec, ça m'apparaît ouais. pas si compliqué que ça, Louis, ça me semble. Je suis pas un gars en informatique, mais je me sers de ça constamment en informatique. C'est pas bien compliqué, ça. Je m'inscris, soudeur, besoin de soudeur, boum, il y a un match qui se fait. Non? Je comprends pas pourquoi ouais. ça prend tant de temps. Je souhaite de tout cœur qu'ils vont accélérer ces choses-là, parce que c'est en train de devenir...
Ouais.
Les gens réalisent pas ce que ça veut dire, pénurie de main-d'œuvre. Ils réalisent pas que... Il y a plein de contrats qu'on ne peut pas accepter parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Il y a plein de situations où ouais. On n'est pas capable de répondre à des appels d'offres. Il y a, et évidemment, le beau côté à très court terme pour les travailleurs eux-mêmes, c'est que les salaires vont monter.
C'est, ben oui,
c'est la loi fondamentale du marché.
C'est ça, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que dans les secteurs, par exemple, où on vit beaucoup de l'économie de services, là, je pense au tourisme, mm-hmm. entre autres, mm-hmm. la Gaspésie, là, c'est un bel exemple.
Oui.
Eux autres, là, des emplois, quand même, tu voudrais mettre des gens qui travaillent, par exemple, des femmes de chambre dans les hôtels ou les payer à 30$ de l'heure.
Il n'y en a pas.
Ben, d'une part, il n'y en a pas, puis par ailleurs, ça ne serait pas viable économiquement.
Non, ce n'est pas viable économiquement, et surtout, ça va installer dans le Québec un taux d'inflation qui va devenir insupportable.
Là, exact.
Dire, quand je te dis à court terme, écoute, si à court terme, les gens arrivent à en bénéficier, ben dépêchez-vous, puis mettez-en un peu dans votre compte d'épargne, parce qu'à un moment donné, ça va frapper le mur, cette affaire-là, tu comprends? Si à cause de la situation de pénurie de main-d'œuvre, on devient impossible... On devient incapable d'être concurrentiel avec les autres sur la planète Terre, ben on va y passer. Et ça, c'est extrêmement malheureux. Le gouvernement a livré sa petite promesse de réduire de 10 000 le nombre d'immigrants pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les immigrants, là. Mais une fois que ça a été fait, il remonte évidemment le niveau de l'immigration. Pourquoi? Parce que la province va finir par étouffer.
Ouais.
Les gens ont de la difficulté à accepter une chose qui est... C'est pas un blâme sur personne, c'est même pas un jugement. La démographie des Québécois de souche, elle est négative. C'est-à-dire qu'on fait plus assez de bébés pour remplacer ceux qui meurent. C'est
ouais.
aussi con que ça. Alors,
et je ne sais pas si tu avais lu l'étude qui avait été préparée par l'Institut du Québec là, sur la démographie. On s'en sortira pas sans l'immigration, le veut pas. Là,
oh non, on n'a pas le choix.
On n'a
pas le choix. Et
même en prenant des taux très bas, très élevés, pardon, d'immigration.